L'évangile de Jean, au chapitre 17. Chapitre 17 de Jean. Jésus dit ces choses, éleva ses yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, comme tu lui as donné autorité sur toute chair, afin que, quant à tout ce que tu lui as donné, il leur donne la vie éternelle. Et c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi, toi, Père, auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti d'auprès de toi et ils ont cru que toi tu m'as envoyé. Moi, je fais des demandes pour eux. Je ne fais pas de demandes pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Mais je ne suis plus dans le monde, et ceux-ci sont dans le monde, et moi, je viens à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Quand j'étais avec eux, moi je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'entre eux n'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant je viens à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient ma joie accomplie en eux-mêmes. Moi je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne fais pas la demande que tu les ôtes du monde, mais que tu les gardes du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et moi je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Or je ne fais pas seulement des demandes pour ceux-ci, mais aussi pour ceux qui croient en moi par leurs paroles, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, afin qu'eux aussi soient un comme nous, afin que le monde croie que toi, tu m'as envoyé. Et la gloire que tu m'as donnée, moi je la leur ai donnée, afin qu'ils soient un comme nous, nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient consommés en un et que le monde connaisse que toi, tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux, quant à ceux que tu m'as donnés, que là où moi je suis, ils y soient aussi avec moi, afin qu'ils me voient ma gloire, que tu m'as donnée, car tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, et le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que toi tu m'as envoyé. Et je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et moi en eux. J'ai lu ce chapitre si élevé, si merveilleux. Nous entendons le Fils encore sur la terre, mais déjà, comme il le dit, hors de ce monde, déjà sorti de ce monde, se voyant déjà au-delà de la croix. Et nous l'entendons parler à son Père. La prière est du Seigneur Jésus, du Fils de Dieu au Père. La parole nous rapporte une autre entretien, si l'on peut parler ainsi, qui échappe à tout ce que nous pouvons concevoir, imaginer, et en rapport, au contraire, avec le moment où le Fils est venu ici-bas. Quand il dit, voici, je viens, il est écrit de moi dans le rouleau du livre, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Voici, je viens pour faire ta volonté. Ici, c'est, j'ai accompli toute ta volonté. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et si j'ai lu tout le chapitre, ce n'est pas avec la pensée, évidemment, que nous arrêtions sur même une faible partie des richesses infinies qu'il contient, mais sur cette pensée ou ce fait qui revient à plusieurs reprises, cette parole. Tu m'as envoyé. J'ai achevé l'œuvre, mais j'ai fait ce pourquoi tu m'avais envoyé. Je suis celui que tu as envoyé. À cette reprise dans ce chapitre, dans cette prière, on trouve cette expression d'envoyer. Une fois, la foi centrale, elle est appliquée aux disciples, mais les six autres, trois avant celle-là, trois après, s'appliquent au Seigneur lui-même. Le Seigneur parle de lui comme étant celui qui a été envoyé, envoyé par Dieu, envoyé par le Père. Christ l'a envoyé ici-bas. Oh, on pourrait dire que c'est l'une, car il y en a beaucoup, des pensées maîtresses et directrices de tout cet évangile de Jean. On pourrait l'intituler Siloé. Siloé, l'envoyé de Dieu. Jésus, le vrai Siloé, envoyé de Dieu. Tu m'as envoyé sur la terre. Hier, on nous a parlé du précurseur, de celui qui avait annoncé celui qui devait venir. Il était envoyé lui-même. Là nous a été dit, et il y a été insisté. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Mais, comme il nous est dit, lui n'était pas la lumière, Il était venu pour rendre témoignage de la lumière, afin que tous crussent par lui. Lui n'était pas la lumière, mais pour rendre témoignage de la lumière. La vraie lumière était celle qui, venant dans le monde, éclaire toute âme. Il était l'envoyé de Dieu pour dire « La lumière va venir ». Les hommes, en grand nombre, étaient venus l'écouter, avaient entendu son témoignage. Il avait reçu, et le plus grand nombre l'avait rejeté, et beaucoup de ceux qui, extérieurement, l'avaient accepté, en réalité le rejetaient de cœur. On le voit par la suite. S'il s'agit des grands de ce monde, des puissants, quant au gouvernement de ce monde, le roi Hérode s'est saisi de Jean et tout en paraissant le respecter et écouter sa parole, il l'a mis à mort dans les conditions que nous savons, obéissant à ses convoitises en réalité. Et les chefs religieux du peuple, et dont beaucoup sont venus comme des hypocrites, la race de vipères que Jean pouvait stigmatiser. En apparence, le recevaient au moins au début, et ensuite n'ont pas, absolument pas, accepté ce que Jean présentait. Le Seigneur leur dira « Pourquoi ne l'avez-vous pas cru ?» Mais les sondes de façon à que la question leur soit posée, pourquoi n'avez-vous pas cru? Il avait été une lumière, il avait été la lampe ardente et brillante, et vous, dit le Seigneur, et au chef du peuple, vous avez voulu vous réjouir un temps à sa lumière. Vous avez voulu annexer Jean comme un prophète dont il pourrait ne se prévaloir, dont ils annexeraient l'enseignement en y incorporant leur tradition d'homme, en le plaçant dans tout le système religieux dont ils étaient les tenants au milieu du peuple. Et c'est pourquoi il ne s'était réjoui qu'un temps à sa lumière. Mais voici que la vraie lumière était venue. La vraie lumière brillait. Celui qui était l'envoyé de Dieu, non pas un homme envoyé de Dieu, mais celui qui était envoyé. Celui qui a porté dans ce monde la pleine lumière. Cette lumière mettant en évidence l'état de l'homme, l'état du monde. Et toute chose est en vue sous leur vrai jour, c'est-à-dire telle que Dieu les voit. Et alors, c'est sur ce grand fait, recevoir ou ne pas recevoir celui que Dieu le Père envoyait, qu'allait se déterminer, que continue à se déterminer le sort du monde, de ses chefs, de ses principaux, mais de toute âme dans ce monde. La vraie lumière est celle qui éclaire toute âme. La lumière a brillé dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise. Le Seigneur est maintenant au terme sa carrière ici-bas. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Maintenant, glorifie-moi, toi Père, auprès de toi-même. Glorifie ton Fils, celui qui a été envoyé et envoyé comme le Fils, envoyé par le Père. À plusieurs reprises, nous pourrions voir, mais nous n'avons pas le temps, les différents passages d'un cours de l'Évangile où le Seigneur se présente, dit expressément qu'il est l'envoyé du Père, le Père qui m'a envoyé, lui qui fait les œuvres. Je suis venu pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé ma viande, voilà sa parfaite obéissance, et de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et parlant aux foules, il leur dira, c'est ici l'œuvre de Dieu que vous fassiez, que vous croyez en celui qui l'a envoyé, etc. Celui qui l'a envoyé, de telle manière que ici-bas, il était le représentant du Père, le messager du Père, mais bien plus que cela, pourrons-nous dire, puisqu'il était le Fils unique qui est dans le sein du Père, venu ici-bas comme un homme et apportant la présence de Dieu ici-bas. Dieu était en Christ, apportant la présence du Père, l'envoyé du Père, le Père envoyé le Fils. Le Fils, Dieu, comme le Père et Dieu, ils sont un. Le Seigneur le dit dans ce chapitre, il l'a dit précédemment, moi et le Père, nous sommes un. L'unité de la déité qui comprend également et dans la même égalité, dans la même unité divine, le Saint-Esprit. Et là, il y a la pluralité des personnes, Père, Fils, Saint-Esprit, chacun avec sa place et sa fonction et son action particulière, mais le Saint-Esprit devait être envoyé plus tard, le Fils a été envoyé, il a été vu comme une personne ici-bas, la parole faite chair, ça aussi nous a été présenté hier, eh bien il a été envoyé, et maintenant il parle avec celui dans le sein duquel éternellement il se trouve. Celui qui était avec lui quand il était sur la terre. Celui qui m'a vu a vu le Père. N'est-ce pas quelque chose qui nous confond que cette pensée de Dieu le Père et Dieu le Fils dans un entretien semblable, le Fils parlant au Père, voilà, il y avait quelque chose à faire sur la terre, et tu le sais, éternellement, ce sont les conseils qui étaient par-devers toi, je suis venu pour les accomplir. Maintenant, j'ai achevé, glorifie-moi, toi Père. L'heure est venue, glorifie ton Fils. Mais venu ici-bas, pour glorifier le Père, il va continuer. Maintenant que son œuvre sur la terre est achevée, il va continuer dans le ciel où il prend place dans la gloire comme un homme glorifié. Mais c'est la gloire qu'il avait auprès du Père avant que le monde fût. Il peut dire, afin que ton Fils te glorifie, comme tu lui as donné autorité sur toute chair, que va-t-il faire de cette autorité ? Comment va-t-il glorifier Dieu le Père, maintenant qu'il l'a glorifié sur la terre ? Afin que, dit-il, Quant à tout ce que tu lui as donné, il leur donne la vie éternelle. Voilà comment il glorifie le Père une fois l'œuvre achevée et avec l'autorité qui lui est donnée. Donner la vie éternelle à ceux qui étaient dans la mort, à ceux qui étaient dans les ténèbres. Et alors, quelle est cette vie éternelle? En quoi consiste la vie éternelle? Cela a été rappelé plus d'une fois au cours de nos réunions ces deux semaines. La vie éternelle est qu'ils te connaissent, seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Connaître Dieu, le seul vrai Dieu, il n'y en a qu'un. Suivant les époques, les dispensations, les âges, il s'est révélé de façon diverse, progressivement, et sous des noms divers. C'est l'Éternel, Dieu de l'Alliance avec Israël, c'est le Tout-Puissant des Patriarches, c'est maintenant le Père que le Fils est venu révéler. Alors qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, celui dont j'ai été ici-bas l'envoyé, c'est le seul vrai Dieu de toute éternité. Et moi, je suis venu pour le faire connaître. Nul connaît le Fils, et nul ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils voudra le révéler. Et le Fils veut le révéler. À qui? À ceux qui écoutent sa parole, aux petits-enfants qui la reçoivent avec foi. Les choses qui sont cachées aux sages et aux intelligents et qui sont révélées aux petits-enfants, ce sont ceux qui le connaissent, qui connaissent le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Désormais, l'humanité se partage en ceux qui reconnaissent en Jésus l'envoyé de Dieu, l'envoyé du Père, et ceux qui ne le reçoivent et qui ne le reconnaissent pas. C'est la vie éternelle qui est là. Dans ceux qui voient en Jésus, celui qui a été le Jésus humilié, souffrant, l'homme de douleur, et puis le crucifié du calvaire, mais aussi le ressuscité, il était l'envoyé du Père. Il avait été envoyé pour tout cela, pour faire tout cela. Mais envoyé comme étant la lumière, manifestant toute chose. Et alors, nous l'avons relu hier, le monde ne l'a pas connu. Il vint dans le monde, le monde a été fait par lui, le monde ne l'a pas connu. Il vint chez soi, il vint vers son peuple, les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu. Et désormais, c'est là la grande séparation. La grande séparation. Ceux qui reconnaissent Jésus comme l'envoyé de Dieu, l'envoyé du Père et de l'amour divin pour être la propitiation pour nos péchés, ce qu'on trouverait dans l'épître de Jean, mais pour révéler le Père. Pour apporter toute la lumière et tout l'amour divin ici-bas. Le monde ne l'a pas connu. Son peuple ne l'a pas reçu. Les hommes n'ont pas voulu de lui. Les hommes en tant qu'homme, l'humanité dans son ensemble n'a pas voulu de lui. On l'a mis à la dernière place. Lui a pris la dernière place dans son obéissance et dans son abaissement. Mais on l'y a mis. Il n'y avait pas de place pour lui dans ce monde. Pourquoi? Parce qu'il révélait combien nos œuvres étaient mauvaises, combien l'état de l'homme était mauvais. et qu'il a tiré la colère du ciel, il provoquait le jugement de Dieu. Celui qui était le vrai bien était là, et tout le mal qui est attaché à nous et qui caractérise ce monde en apparaissait dans toute son horreur. Il était la loi elle-même, juste, sainte et bonne, et il dépassait la loi, mais elle était là, elle était dans ses entrailles, et il a magnifié dans toute sa vie, dans toutes ses paroles, dans tous ses actes. Oh, nous ne pouvons pas supporter une telle présence. Leurs œuvres étaient mauvaises. On ne voulait pas venir à la lumière. La conscience réveillée se replongeait dans sa nuit, ne voulant pas de celui qui apporte le salut, mais ne peut l'apporter qu'à des pécheurs et à ceux qui se reconnaissent pécheurs. Et on s'est débarrassé de lui. On l'a cloué sur une croix. Voilà ce qu'a fait le monde. Mais au milieu de ce monde, il y a ceux qui connaissent le Jésus-Christ comme l'envoyé du Père, et qui connaissent Dieu comme le Dieu de réconciliation, le Dieu qui a réconcilié les pécheurs avec lui-même au prix du propre sang de celui qui est mort sur la croix, expiant nos péchés. Mais cela, le simple et si grand et si merveilleux évangile, et on ne saurait trop le reprendre et nous en réjouir et en bénir Dieu et le présenter autour de nous à ceux qui sont encore dans les ténèbres de ce monde. Et c'est ainsi que le Seigneur parle au Père et de ceux qui étaient là autour de lui encore, c'est-à-dire ses disciples, les 12 et d'autres avec eux, ceux qui avaient reçu ces paroles. Et c'est ceux qui avaient la vie éternelle parce que ils connaissaient seul vrai Dieu et celui qu'il avait envoyé, Jésus-Christ. C'était le propre des vrais disciples. Et c'était une question de foi. Il connaissait que Jésus avait été envoyé du Père parce qu'il l'avait cru. Et aujourd'hui, comme alors, c'est une question de foi. Pas une question de raisonnement, ce n'est pas une question qui se démontre comme des faits physiques, c'est une chose qui ne peut être reçue que par la simple foi acceptant les déclarations de Dieu. C'est ce que nous trouvons avec le deuxième passage qui nous parle de celui qui a été envoyé. Le premier, c'est ce verset 3 sur lequel je viens de dire quelques mots. C'est ici la vie éternelle qu'ils te connaissent, seul vrai Dieu et celui qui a envoyé Jésus-Christ. Ensuite, en parlant de ses disciples, il peut dire, verset 8, ils ont vraiment, je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti d'auprès de toi, et ils ont cru que toi, tu m'as envoyé. Si quelqu'un ici n'a pas cru que Jésus est l'envoyé a été l'envoyé du Père ici-bas pour accomplir l'œuvre du salut à la gloire de Dieu et pour avoir des enfants ici-bas avant de les avoir dans le ciel, il est étranger à toutes ces choses. Et qu'il ne pense pas pouvoir participer à laquelle que ce soit des bénédictions qu'apporte l'Évangile sans passer par cette porte étroite. Cette porte qui empêche de passer à tout ce qui est de nous-mêmes, de nos prétentions, de nos raisonnements, de nos péchés, hélas. Mais croire que toi, tu m'as envoyé, c'est croire en réalité qu'il n'y avait pas d'autre moyen pour nous d'être en relation avec Dieu, d'être en paix avec Dieu, et que tous nos efforts en dehors de Jésus restent non seulement inutiles, stériles, mais outrageants pour Dieu et ajoutent à notre culpabilité, et que la vie éternelle ne s'acquiert pas autrement que par la foi en celui qui a été envoyé sur cette terre parce que il n'y avait pas d'autre moyen de sauver les pécheurs et de revendiquer la gloire de Dieu là où l'homme l'avait entièrement déshonoré. De sorte que ceux qui sont maintenant placés ici-bas comme connaissant ce fait immense de portée infinie, celui que Dieu a envoyé, sont placés dans l'unité d'une vie nouvelle, l'unité de cette foi dans les paroles de Dieu et dans celui qui est la parole faite chair, Jésus lui-même, et cette unité est telle que le Seigneur peut dire d'eux, il le disait, de ses disciples essentiellement, ils sont un comme nous, nous sommes un, afin qu'ils soient un comme nous. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous, comme Père et le Fils. Parole d'une immense portée, on n'arrêterait pas de la méditer et on en épuiserait qu'une bien bien faible partie. Mais voilà l'affirmation du Seigneur. Et cela est rattaché simplement à ceci, n'est-ce pas, qu'ils ont cru que toi, tu m'as envoyé. Ils se trouvent ainsi en opposition totale avec le monde. Ils constituent dans ce monde un corps étranger. Ceux qui ont et qui sont dans la lumière alors que le monde reste dans les ténèbres. Ceux qui connaissent la vie éternelle alors que le monde reste plongé dans la mort. Il n'y a pas de zone intermédiaire, n'est-ce pas? On est d'un côté ou on est de l'autre. Quand Seigneur Jésus parle de ces choses dans le chapitre 6 de ce même évangile, on voit des gens qui successivement se détachent de lui. Oh, ces choses sont trop difficiles, sont trop dures, qui peut les entendre? Et on s'en va, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une poignée autour de lui. Et alors il leur demande, et vous, voulez-vous aussi vous en aller? Et nous connaissons la réponse de Pierre. Seigneur, auprès de qui nous en irions-nous? Auprès de qui nous en irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous, nous croyons, et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Ils ont cru que toi, tu m'as envoyé. Ils ont cru les paroles qu'ils ont entendues, les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. La déclaration de Pierre en est la preuve. Oh, sans doute, ils ne voyez pas ces choses avec la netteté que plus tard, ceux qui auront le Saint-Esprit pourront les voir, et que nous sommes appelés à les voir et les connaître, mais dans leur faiblesse encore, dans tout ce que leur foi pouvait encore avoir de trouble, ils pouvaient dire, ce sont les paroles de la vie éternelle. Et alors, non seulement nous croyons, mais puisque nous croyons, nous savons la vraie connaissance, qui est la connaissance de la foi. Qu'ils se connaissent, seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Comment connaît-on? En croyant. Ils ont connu que je suis sorti d'auprès de toi, et ils ont cru que toi tu m'as envoyé. Alors, les voilà au milieu de ce monde, tel que le Seigneur lui-même a été durant les jours où il était ici-bas. Et ceux qui croient en, qui ont cru par leurs paroles, sont placés sur le même terrain. C'est-à-dire, en dehors de ce monde, moralement, mais dans ce monde, n'étant pas de ce monde, mais dans ce monde. Je disais tout à l'heure, comme un corps étranger, et que le monde ne peut pas plus souffrir, qu'il n'a pu souffrir la présence de Jésus ici-bas. Seigneur a quitté la scène, il n'est plus là, mais il laisse ses disciples. Et il peut dire au verset 18, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. » Comme tu m'as envoyé dans le monde. Le Fils envoyé dans le monde ennemi, dans le monde ténèbres et mal. Ceux qui lui appartiennent, dans la même unité, envoyés de la même manière, dans un monde ennemi, dans un monde ténèbres, dans un monde de mal. Dans un monde sur lequel Satan a mis son emprise. Et d'autant plus que Jésus a été cloué sur la croix par la main d'hommes iniques, et que Satan a employé là dans son suprême effort contre Dieu, contre son Christ. Il a employé tous ces hommes qui se liguaient pour condamner et puis exécuter du dernier supplice Jésus lui-même. Ce sont des choses solennelles, des choses terribles quant au monde. Eh bien, c'est dans ce monde-là qu'il envoie ces types, comme le Père l'a envoyé. Est-ce que nous pesons ces paroles? Que nous avons été et que nous sommes envoyés dans ce monde comme le Fils a été envoyé. Pour être les témoins, pour être les représentants de celui qui a pris sa place dans la gloire. Envoyés et non pas avec un simple programme des directions générales et puis à nous ensuite à bâtir nos plans, à voir de quelle manière nous pouvons les exécuter, non pas. Celui qui a été envoyé par le Père l'a été pour accomplir la volonté du Père en toute obéissance, en parfaite obéissance. Je suis venu non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Le Fils ne fait rien par lui-même. N'est-ce pas? Il peut dire cela dans le chapitre 5. Il est là, et le Père aime le Fils et lui montre toutes les choses qu'il fait lui-même. Le Fils ne peut rien faire de lui-même à moins qu'il ne voie faire une chose au Père, car quelque chose que celui-ci fasse, là aussi, le Fils aussi de même le fait. Ce sont des expressions qui nous donnent la mesure, une mesure infinie, de ce qu'a été l'obéissance de celui qui, vrai Fils de l'homme, ici-bas, était le Fils de Dieu venu pour faire la volonté du Père. C'est comme cela que nous sommes envoyés. Et c'est pour accomplir la volonté de Dieu, c'est pour la rechercher, et c'est pour éprouver qu'elle est agréable, et c'est pour la faire et l'accomplir de manière à lui plaire. Ça, cela, c'est l'enseignement pratique, on peut dire, de toutes les épîtres. Les Romains, les Éphésiens, les Colossiens nous présentent cela. Et nous savons ce que les disciples n'avaient pas le Saint-Esprit, du moins tout au début, un seul Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus, comme nous le savons, était baptisé, était loin du Saint-Esprit. Il l'a reçu ce baptême dont il a été question également hier. Et c'est dans la puissance du Saint-Esprit qu'il est allé, obéissant au Père, un avec lui, et conduit par l'Esprit lui-même. Lisez le chapitre 5, chapitre 4 et 5 de l'Évangile de Luc. Ils sont tellement, chapitre 4 particulièrement, tellement parlants à cet égard. Eh bien, nous sommes envoyés de la sorte. Et je pense que tous, nous savons comment et quand le Seigneur, de façon précise, a envoyé les siens dans ce monde comme lui avait été envoyé du Père. Dans ce même chapitre, dans ce même évangile de Jean, au chapitre 20, nous avons la scène bénie du soir, du jour, du premier jour de la semaine, du jour de la résurrection. Quand Jésus ressuscité se trouve au milieu des siens, ce sont ceux qui avaient cru que le Père l'avait envoyé. Ce sont ceux qui avaient reçu les paroles de la vie éternelle. Et dans leur ignorance, et alors qu'ils étaient affligés au moment où ils auraient dû se réjouir, qu'ils étaient pleins de crainte alors que la victoire avait été remportée, les voilà, le soir, les portes du lieu où ils étaient fermées par crainte des Juifs, Jésus vient, se tient au milieu d'eux, paix vous soit. Il leur apporte la paix. Paix vous soit, me voici. Et voici pourquoi la paix est assurée. Il leur montre les marques de ses souffrances. Et il fait bon là, autour du Seigneur, du Seigneur ressuscité. Les disciples sont pleins de paix et ils sont pleins de joie. Ils se réjouirent quand ils virent le Seigneur. Paix vous soit. Ils auraient bien voulu rester là. Mais c'est pas possible. C'est pas encore le temps. Il y a un temps où nous serons avec le Seigneur pour ne jamais le quitter dans des corps semblables à lui. Mais tandis que nous sommes sur la terre, et il faut, après avoir joui des moments précieux de communion et de communion avec lui dans le rassemblement des siens, et il faut aller où donc dans ce monde, quoique n'étant pas du monde. Jésus leur dit donc encore, paix vous soit. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est à ce moment-là qu'il les envoie. Il les envoie avec sa paix, et avec la même paix, la paix dont il avait joui, comme homme ici-bas. Il avait dit une première fois, paix vous soit, tout est réglé vis-à-vis de Dieu, et vous n'avez rien à craindre, aucun ennemi. Mais le second paix vous soit, c'est en rapport avec l'état pratique dans lequel ils sont appelés à se trouver comme des témoins et comme des combattants de Christ au milieu de ce monde. Là où ils seront appelés, conduits par le même esprit qui a conduit Jésus, car aussitôt après, ayant dit cela, il leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Il y a là tout un enchaînement bien remarquable, n'est-ce pas, de choses. Alors retenons que quand le Seigneur dit aux siens, dit des siens, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde », cela nous concerne tous. Nous sommes envoyés dans le monde. On n'est pas appelé à en sortir effectivement, visiblement, et non pas à nous retirer comme des moines contemplatifs ou comme des ascètes. D'ailleurs, c'est en vain qu'on essaye de fuir le monde si, dans la solitude la plus complète, on pensait l'avoir enfin tout à fait fui, on le retrouve en soi-même, avec toutes les convoitises qui sont les nôtres et qui sont celles qui sont dans le monde. Tout ce qu'il y a dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, mais c'est ce qu'il y a au fond de notre cœur, de notre nature. Non, nous sommes envoyés dans le monde comme n'en étant pas pour vivre les uns d'une manière, les autres d'une autre. Qu'il serait beau de pouvoir dire chacun, je suis exactement là où le Seigneur m'a voulu. Je suis exactement à la place, dans l'emploi, avec le travail, même le travail nécessaire pour subvenir à mes besoins terrestres, aux besoins de ma famille et de la famille de Dieu. Mais là et de la manière que Dieu l'a voulu. Seigneur Jésus était toujours à la place où Dieu le voulait. Il faisait toujours ce que Dieu lui demandait. Puisse-t-il en être ainsi pour nous. Nous rencontrerons, si nous sommes fidèles, l'opposition du monde. Rencontreront ce que lui a rencontré. Il ne peut pas donner aux siens autre chose que ce qu'il a eu sur la terre. Hélas, nous recherchons facilement autre chose. Et alors, il est bien évident que nous le recherchons en dehors du Seigneur Jésus. Mais s'il y a ainsi un témoignage, car c'est au fond le témoignage que nous avons là, envoyé dans le monde, un témoignage individuel, un témoignage de chacun. Il y a un témoignage collectif. Nous n'avons pas ici proprement l'assemblée, mais l'ensemble de tous les croyants, quoi qu'il en soit. C'est bien l'assemblée telle qu'il en sera parlé plus tard, par l'apôtre Paul, enseignement du Saint-Esprit, et résultat de la présence sur la terre, non plus du Fils, il a pris place dans la gloire, mais du Saint-Esprit. Mais nous avons, quoi qu'il en soit, l'unité des croyants, l'unité de la famille de Dieu, des enfants de Dieu, et ensemble, nous constituons dans ce monde, à ces titres divers, n'est-ce pas, soit assemblée, soit famille de Dieu, et nous constituons encore étrangers, je reprends l'expression, nous constituons quelque chose qui doit, au milieu de ce monde, se voir. Oh, dans la tranquillité dans la paix. Paix vous soit. Allez-vous-en avec ma paix. Les disciples de celui dont on n'entendait pas la voix dans les rues, qui ne criait pas, qui ne se mettait pas en avant, qui ne réclamait rien pour lui-même, qui ne se mettait pas en évidence, mais qui se trouvait comme, malgré lui, comme sans y penser, mais du fait même qu'il était là la lumière parmi les ténèbres, il se trouvait en évidence par la perfection même de son obéissance à la volonté de Dieu. Et c'est ainsi que nous sommes appelés à témoigner pour lui et à témoigner ensemble aussi bien qu'individuellement. Et c'est ce que nous trouvons ensuite, n'est-ce pas? Je ne fais pas des demandes pour ceux-ci, mais seulement mais pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croit que toi tu m'as envoyé. Il a été répondu à cette prière du Seigneur. Nous ne pouvons pas en douter, nous le savons bien. Pour Dieu, devant Dieu, et quant à notre position devant lui, et également au milieu de ce monde, nous sommes un, tous les croyants. Et seulement ceux-là. Ils ont la vie, ils ont le Saint-Esprit, une fois qu'ils sont scellés du Saint-Esprit, et ils ont à porter le même témoignage, à manifester cette unité, afin, est-il dit, que le monde croit. C'est cette unité montrée par les saints dans leur vie collective qui, à proprement parler, constitue le témoignage qui rend le monde responsable. Nous ne pouvons pas lire ces choses sans être humiliés et sans courber la tête. Mais je pense que nous ne pouvons pas les lire non plus, nous sentant repris dans nos consciences sans être en même temps stimulés, encouragés par l'Esprit de Dieu, de manière à mieux réaliser cela, à montrer cette unité. S'il s'agit de l'ensemble, elle est perdue, nous le savons bien, les divisions extraordinaire et affligeante, humiliante à la chrétienté sont là et nous y avons notre part. Mais qu'il nous soit donné de rechercher dans la pratique, selon toutes les occasions et tous les moyens qui sont placés devant nous, à manifester cette unité. Cela est appelé dans les Éphésiens, garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Oh, puissions-nous méditer ces expressions et ces exhortations. Afin que le monde croit. Comment le monde croirait-il quand il voit des chrétiens se déchirer entre eux? Comment pourrait-il les disciples du même maître et de quel maître d'amour s'ils n'ont pas d'amour entre eux? Cela ne peut être réalisé que dans l'obéissance commune au maître, que dans la connaissance et dans le respect de cette volonté du maître qui est la volonté de Dieu, qui est la volonté du Père. Je ne fais que rappeler des choses sur lesquelles notre attention a été attirée bien des fois et ne saurait trop l'être. Puissions-nous les méditer. De sorte que il y ait un témoignage au milieu du monde et que des âmes soit amené ainsi au Seigneur, amené à la même foi, à la même connaissance, à la même vie éternelle. Mais en réalité, malgré tout, c'est une pensée consolante. Elle est humiliante en même temps, mais consolante que, malgré toutes les faiblesses et tous les manquements de ceux qui appartiennent au Seigneur, qui ont la vie éternelle, malgré tout, il n'est pas possible qu'il y ait la vie divine chez des personnes sans que, un moment ou l'autre, cela se manifeste. Et il y aurait bien des expériences qui nous montreraient que le monde qui observe les enfants de Dieu, qui ne les aime pas, qui ne peut pas les aimer, le monde est forcé. Et dans des cas où pourtant nous aurons manifesté, nous avons manifesté beaucoup de faiblesses et beaucoup de manquements, il a été amené à voir, malgré tout, des étincelles de la lumière, et des manifestations de cet amour qui ne peut avoir sa source que dans celui qui est l'envoyé du Père et celui qui est venu faire connaître l'amour de Dieu ici-bas. Et puis, le temps passe et on ne va pas prolonger. Nous retrouvons l'unité et en même temps la même expression de celui qui a été envoyé en rapport avec l'avenir. Le monde est responsable de ce que, ici-bas, il y a des témoins de la vie de Dieu, de la foi en celui que Dieu a envoyé, et cela lui sera redemandé. C'est le témoignage du Seigneur, ce n'est pas le nôtre. Et puis, il viendra un jour où alors il sera trop tard pour que quelque âme que ce soit vienne à la foi, à la connaissance, à la vie éternelle. Alors Jésus aura pris tous les siens auprès de lui. Alors ils seront consommés en un. Ce n'est plus seulement cette unité de communion sur la terre, mais ce sera la consommation de l'unité dans la gloire. Verset 23, afin qu'ils soient consommés en un, et que le monde connaisse que toi tu m'as envoyé, toujours la même chose, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Voilà quelque chose de nouveau qui est introduit, l'amour divin qui a eu comme objet ceux qui ont cru au Seigneur Jésus et qui sont aimés comme lui-même a été aimé. C'est une perspective infinie qui s'ouvre devant nous. Mais alors l'unité sera consommée, c'est-à-dire parfaite, amenée à sa somme, à son point culminant et en même temps à sa perfection, sa totalité. Il ne manquera aucun des rachetés de Christ. Nous serons consommés en un dans la gloire et alors le monde connaîtra. Il sera trop tard pour croire. Le monde ne pourra plus croire. Et il restera pour lui le jugement parce que il a rejeté Christ et puis il a rejeté le témoignage de tous ceux qui avaient été envoyés par Christ. Et ainsi, nous avons cet ensemble, n'est-ce pas, de vérité concernant l'envoi du Fils par le Père ici-bas. Depuis le moment où celui-ci, le Fils, est apparu sur ici-bas, puis a accompli tout son ministère jusqu'au moment où, dans la gloire, sera rappelé ce fait unique de la présence du Fils sur la terre comme envoyé du Père. Et cela, lié à l'amour éternel, il nous resterait encore un verset, n'est-ce pas, c'est le verset 25. Père juste, tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, et le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que toi tu m'as envoyé. Seigneur, reviens avec bonheur sur ce fait qu'il y a des résultats à son œuvre, résultats à ses souffrances, résultats à son abandon sur la croix, à sa mort expiatoire. Il y en a qui ont connu que tu m'as envoyé, il y en a qui ont la vie éternelle, il y en a qui sont aimés comme toi-même tu m'as aimé, et alors j'aurai le privilège de leur faire connaître ton nom. Je leur ai fait connaître, mais je leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux, c'est-à-dire quelque chose de complètement inconnu du monde, mais part présente, comme ce sera la part éternelle, de ceux qui ont connu et cru que Jésus a été l'envoyé du Père dans ce monde pour accomplir sa volonté éternelle d'amour dans le salut de pécheurs tels que nous à la pleine gloire de Dieu son Père. Je t'ai glorifié sur la terre, glorifie-moi toi Père auprès de toi-même.